ben, on entend les politiques qui s'offusquent d'une photo qui montre quelqu'un s'essuyant le derrière avec un drapeau français. Ils s'offusquent, mais si on fait un petit effort de mémoire, on se rend compte qu'ils s'offusquaient pas quand ils ont dessiné les caricatures de Mahonnet. Au contraire, ils disaient que c'était normal, qu'il fallait accepter. Souvenez-vous.
Notre ministre de la Justice, Madame Alliot-Marie, va sûrement se faire engueuler par le président de la République. Figurez-vous qu'elle a demandé que des poursuites pénales soient engagées après la diffusion par le journal gratuit Métro du 19 mars dernier d'une photographie montrant un homme s'essuyant le postérieur avec le drapeau français. Photographie en outre récompensée par un jury dans le cadre d'un concours portant sur le thème du politiquement incorrect. Bon, c'était le thème du concours. Bon, déjà, le procureur de la République de Nice, Éric de Montgolfier, préalablement saisi de l'affaire, l'a normalement classé le 30 mars en invoquant la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003, excluant du champ de la loi les œuvres de l'esprit. Alors, le porte-parole du ministère de la Justice, Guillaume Didier, a beau déclarer qu'il faut sanctionner un acte aussi intolérable contre le drapeau français, ça m'étonnerait qu'il soit suivi sur ce terrain par l'actuel locataire de l'Élysée, dont personne n'a oublié l'ostentatoire intervention en faveur du journal satirique Charlie Hebdo lorsque celui-ci était passé en justice pour la publication des caricatures de Mahomet. Ou alors il y aurait deux poids, deux mesures, ce qui m'étonnerait fort de la part de Nicolas Sarkozy, dont toutes les décisions politiques témoignent de sa passion pour la justice. On peut également supposer que l'ancien directeur de Charlie Hebdo, devenu depuis directeur de France Inter, va certainement intervenir en personne à l'antenne pour se faire l'avocat de la liberté d'expression. Non, voyez-vous, ce qui est navrant dans cette affaire, c'est de constater une fois de plus que le pouvoir utilise toujours les mêmes méthodes d'intimidation pour défendre les symboles, pour sauvegarder la vitrine en quelque sorte. On est toujours dans l'ostentatoire. Alors que par ailleurs, et c'est d'autant plus vrai pour le pouvoir en France depuis 2007, il conduit une politique qui ne cesse de se torcher avec les valeurs de la République, qui sont exprimées dans la devise que je me permets à l'occasion de leur remettre en mémoire, liberté, égalité, fraternité.
Dans Le Monde du 20 avril, le directeur de France Inter dit à propos de Stéphane Guillon, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce que font les gens, mais pas sur ce qu'ils sont. Alors effectivement, crime de lèse-ministre, Guillon avait comparé Éric Besson à une fouine. Mais dans les années 80, deux dessinateurs portraitistes de talent, Mulatier et Ricord, sortaient deux albums intitulés « Ces animaux qui nous gouvernent » avec des textes de Pierre Desproges. François Mitterrand était croqué en dindon, Raymond Barre en tortue, Arlette Laguillier en rongeur et beaucoup d'autres avec eux. S'ils avaient continué leur caricature en 2010, Rachida Dati serait une musaraigne et Dominique de Villepin un lévrier afghan, à moins évidemment qu'un ayatollah de la pensée et de la morale ne se charge de les dénoncer en place publique.
J'appelais par rapport à l'émission d'aujourd'hui ces femmes d'Argentine qui étaient vraiment passionnantes. J'ai beaucoup de compassion pour elles et bravo parce que franchement elles méritent absolument notre admiration et ça s'appelle la vraie résistance avec une humanité sans commune mesure. Voilà, ça m'a beaucoup touchée et je pense souvent à elle, mais alors là, avec cette émission, je crois que c'est encore pire. Voilà, et bien écoutez, merci Daniel pour toutes ces belles émissions, pour cette résistance et merci d'exister, ça nous fait chaud au cœur. Au revoir, c'était Martine.
Je suis militante à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et je suis responsable de la recherche des enfants disparus en Argentine depuis 30 ans. Je vous remercie d'avoir passé cette émission, d'autant que le dictateur Bignon vient d'être jugé et condamné à 25 ans de prison. C'est la joie en Argentine depuis le temps que les mères et les grands-mères. Moi, je m'occupe des enfants disparus, je travaille avec les grands-mères. C'est la joie parce que ce type est enfin condamné. Alors, notre action consiste, depuis 30 ans, à intervenir partout en Argentine pour la recherche des enfants disparus qui sont nés en prison. Dès leur naissance, on les prenait et on les donnait à des militaires en les enlevant à leur mère. Il y en a plus de 100 qui ont été retrouvés, alors que les grands-mères pensent qu'il y en a au moins 500 qui ont disparu. Il y a aussi des Français disparus. Il y en a 18. Et nous continuons à faire des démarches pour les retrouver et pour que les militaires soient jugés.
C'est marrant parce que toi, Daniel, tu sors du Japon, là, et ça m'a fait penser qu'il y a, il y a quelques années, on était en plein miracle japonais, et apparemment, enfin, je sais pas si ça a été validé par quelqu'un, mais il n'y a plus de miracle, là, ils ont 200% de dette publique, enfin. Et puis ton émission d'aujourd'hui, c'était sur l'Argentine, et j'ai aussi pensé à ce putain de miracle argentin, quoi. Et puis bon, après, les Argentins se sont réveillés, et ils se sont retrouvés un petit peu dans la merde, et donc il n'y avait pas de miracle. Et donc, samedi à 15h, aux Estérés du Lac, à Montauroux, il y aura le repère chez, chez Hervé. Et ben, on va le faire sur les miracles, en fait. Puisque, bon, de temps en temps, on nous annonce qu'il y a un miracle par-ci, un miracle par-ci, un miracle par-là. Il y avait aussi le miracle islandais, mais bon, il a dû tomber dans un volcan. Voilà, vendredi 15h, aux Estérés du Lac, sur le bord du lac de Saint-Cassien, à Montauroux, on fera le repère. Ciao, vive, portez-vous bien. Et rentre bien, tranquille.
Ça y est, enfin, après des jours et des nuits à ramer dans les flots déchaînés avec les airplane people, depuis ce matin, nous apercevons les côtes françaises et bientôt, bientôt, nous foulerons le sol de la patrie de la burqa. Nous sommes heureux, bien évidemment, vous l'imaginez à cette idée, après ces jours et ces nuits venant de Tokyo, en une simple barque, ça aurait été quelque chose de très difficile et nous ne manquerons pas de vous raconter ça par le menu. En attendant, aujourd'hui même, on retrouve une ancienne émission de la base J'y suis sur et avec la participation d'Evgen Bauchar. Evgen Bauchar, nous l'avions rencontré en 1991, figurez-vous, il y a 19 ans. Et vous allez découvrir un homme singulier qui est photographe, ce qui n'est pas singulier, sauf qu'il est aveugle, un photographe aveugle. Né en 1946 en Slovénie et devenu aveugle à l'âge de 12 ans et qui a, à partir de cet accident, réfléchi et qui va nous faire partager sa réflexion, ses réflexions sur la différence qui peut exister entre la vue et la vision. C'est une très belle, un très beau moment et un homme remarquable que nous allons retrouver aujourd'hui dans la base si j'y suis. Autre chose très très importante, une autre chose très importante, c'est l'enregistrement public de la base si j'y suis avec le monde diplomatique. Chaque mois, maintenant, nous nous efforçons d'enregistrer cette fameuse émission en public à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple à Paris, et ce sera ce lundi à partir de 18h30. Comment faire pour être présent? Eh bien, il faut taper le diplo à la Java, le diplo à la Java, tout attaché sans accent, le diplo à la Java @gmail.com, le diplo à la Java @gmail.com, et pour retenir votre place en précisant si vous venez à 1, à 2, à 3 ou à 12. Voilà. Et ainsi, nous nous retrouvons, donc, je répète, lundi 26 avril, 18h30, 105 rue du Faubourg du Temple, à partir des 18h30, je le répète et je le re-répète, pour l'enregistrement public du diplo à la Java. Aujourd'hui, Evgen Bauchar, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je suis Maïté, marraine RESF d'une famille tchétchène depuis quelques mois en France et en attente de papiers. Cette mère de famille a fui son pays avec ses deux grands-enfants lorsque son mari a été enlevé et qu'elle a senti une grande menace sur ses enfants. Ces familles de demandeurs d'asile sont actuellement dans une situation dramatique. Depuis la fin du plan hivernal, le 115 n'assure plus aucun hébergement d'urgence. Cela signifie que ces familles sont à la rue. Nous lançons une alerte sur Strasbourg. Une vingtaine d'enfants sont à la rue, dont un bébé de un mois. J'ai bien dit à la rue, sans même un abri de toile. Et la semaine prochaine, ce nombre sera encore plus important. Mais dans quel pays vivons-nous pour accepter cela? Il faut se mobiliser tous contre l'inacceptable. Un rassemblement est organisé à Strasbourg ce lundi 26 avril à 18h devant l'Opéra Place Broglie en présence de ses familles. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Ah. flight number 2 arriving
from... Regardez bien. Un chapeau noir, une écharpe rouge, des lunettes, une barbichette, un appareil photo et une canne blanche. Vous remarquez rien ? Alors je recommence. Chapeau noir, écharpe rouge, lunettes, barbichette, appareil photo et canne blanche. Et oui, bravo. Il y a une erreur dans ce que je vous raconte. Appareil photo et canne blanche. Un aveugle avec un appareil photo. Un aveugle photographe, ça se peut pas. Eh bien, si l'aveugle photographe existe, on l'a rencontré. C'est avec lui et avec Anne Rioux qu'on va se balader aujourd'hui à Paris. Eugen Baočar, il s'appelle. Il est d'origine yougoslave, slovène exactement. Aveugle et photographe. C'est pas un gag, c'est pas un paradoxe, c'est pas une ironie, c'est pas une provocation. Les photos d'Eugen Baočar font l'objet d'un tas d'expositions un peu partout dans le monde. Et c'est pas tout. Eugen Baočar, il n'est pas seulement aveugle, il n'est pas seulement photographe, il est aussi philosophe, il est aussi écrivain, il est aussi chercheur, il a fait des recherches sur l'art, et c'est un très bon amateur de peinture. J'allais dire un œil, vous savez qu'on dit, quelqu'un il a une bonne oreille pour la musique, et bien lui c'est un œil, et pourtant, et oui il est aveugle, et il aime Jérôme Bosch, ou le Gréco, ou Bonnard par exemple, à cause des couleurs. C'est un bonhomme absolument merveilleux. C'est un poète. Ce genre de personnage remarquable, comme vous en rencontrez très très peu dans votre vie. Et il dit ceci. Ce que l'aveugle voit, le voyant ne le voit pas.
Je l'ai fait à partir de mon expérience personnelle, de la cécité. Mais ça n'a rien d'exotique. Hein. C'est un travail de réflexion, de préparation aussi. Il faut que d'abord la photo existe dans ma tête. Après, je la réalise. Sauf les photos comme ça, un peu de reportage dans les rues. Ça, c'est... Là, j'essaie de photographier ce que je dirais le hasard nu. Hein? Le hasard qui est nu. Le hasard pur, on dit en français. Mais c'est plus beau dire le hasard nu.
Le hasard nu. Voilà, je vous emmène dans une chambre noire, dans le regard d'un aveugle, un regard sur le monde, le sien, le nôtre, une heure dans un regard de l'intérieur, l'aveugle qui photographie.
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé, pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier, pas raison pour qu'on les oublie. Les petites femmes en petites d'été, en noir et blanc, au 50e, ça fait l'effet sur l'amateur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie. Plus l'amour va passer, y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané.
Ne bougeons plus.
En couleur, ce que c'est beau, la photographie. bougeons plus, l'air on va passer. 1, 2, 3, c'est la plus jolie. Agrandi, vous l'encadrerez.
Ne bougeons plus.
Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour l'éternité.
On est à la radio, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image. On entend ça de temps en temps, dans le poste. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image. Et je trouve ça complètement idiot. La radio, c'est l'art le plus visuel qui soit. Écoutez-moi bien. Suave, boudeuse, elle était couchée, ses cheveux défaits, la bouche offerte. Bon. Je répète, suave, boudeuse, elle était couchée, ses cheveux défaits, la bouche offerte. Qu'est-ce que vous venez d'imaginer? Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Eh bien, ce que je viens de faire surgir plusieurs centaines de milliers d'images dans vos imaginations. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à avoir vu quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que chacun s'est fait son image. Suave, boudeuse, couchée, cheveux défaits, bouche offerte. Vous êtes tous actuellement des aveugles. La radio est l'art le plus visuel pour les plus grands aveugles qui soient. Ce qui vient de se passer, ce que vous avez imaginé, c'est un regard. C'est un regard de l'intérieur et c'est un regard d'aveugle. Imaginez maintenant que ce que vous avez vu, vous essayez de le fixer. Vous essayez de le montrer. Mais en gardant les yeux fermés, ça paraît incroyable. Eh bien, c'est ce que Eugen Bauchar tente de faire. Eugen Bauchar, il est d'origine slovène, il est aveugle et il est photographe. Anne Riou l'a rencontré.
Voilà. C'est une pellicule en couleur ou en noir et blanc?
En noir et blanc, en couleur, c'est trop cher pour moi. Hein?
Ah, ça y est?
Attendez, attendez encore. Mm-hmm. Je change le système.
Vous changez l'objectif?
C'est 28 mm, c'est large. Voilà, ça va être parfait. Hein? Bon. Bon. Voilà.
Et comment vous me repérez?
Je vous écoute. Je sais que votre tête est là, que vous êtes là à peu près. Je sais quelle largeur ça prend et voilà.
Mais ma taille, par exemple, je peux être très grande ou très petite.
Si je mets comme ça la main, je peux toucher votre chevelure, mm-hmm. n'est-ce pas? Alors,
si je... Oui, mais vous n'aviez pas mis la main tout à l'heure.
Oui, mais j'ai mis ma pensée sur votre voix, n'est-ce pas? En quelque sorte. Hein? Voilà, et j'ai pu fixer l'endroit où vous trouviez. Mm-hmm. Hein? C'est comme ça, ça. Mais ça, je me suis beaucoup exercé, vous savez. Si l'objectif est le plus étroit, par exemple, 50 mm ou 130-35, c'est plus difficile. Il faut que je fasse plus attention. Avec grand angle, c'est plus facile. Hein. Si c'est des paysages, ça je fais surtout en Slovénie. Je fais des photos la nuit, surtout, hein, avec des éclairages, avec les lampes et tout ça. Il y a parfois quelqu'un qui m'aide pour éclairer. Donc je fais la nuit. Si je fais des photos ici, ça dépend, n'est-ce pas? S'il s'agit de portraits ou s'il s'agit de nuit, ça dépend. Et ça dépend de la personne que je photographie.
L'œil écoute, l'oreille voit. Et Eugen Bauchar dit « Photographier pour moi, c'est pervertir le mode de perception entre voyant et non-voyant. » Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit pas? Avec Anne Riou, notre ami Eugen va se balader en quête de jolies femmes. Et c'est Anne qui fait les yeux.
Si je vois des belles femmes autour de nous au café, alors... Non, alors pas sur la terrasse, mais à l'intérieur, il y a une jeune étudiante Oh, elle a, je sais pas, 18 ans.
Blonde, brune.
Non, blonde avec une, les cheveux attachés. Vous savez, comme toutes les étudiantes du quartier, du 16e.
Ah bon, c'est
un catogan.
C'est à la mode. Mmh. Je savais même pas.
Oh, mais ça fait plusieurs années dans le quartier.
Hein. Que je touche un jour.
Que vous touchiez quoi?
Un catoblon.
Catogan.
Catogan. Mmh.
À chaque fois que vous êtes à un café, vous demandez s'il y a des jolies... Alors, non seulement des femmes, mais des jolies femmes.
Parce que les autres les regardent.
Quels sont les quartiers où vous aimez vous promener dans Paris?
Ici, 15e, c'est intéressant, mais c'est pas de mon monde. Hein. C'est plus cher. Hein.
Ça fait 17 ans, 18 ans que vous habitez Paris. Et vous dites qu'évidemment, Paris a changé, les cris des gens ont changé, les odeurs ont changé.
On sent moins les odeurs de gitane et de Vauloise. On sent moins ça. On sent moins la parole populaire. On sent moins. Et puis, les odeurs aussi ont changé, oui. D'autres odeurs. Quand je dis, par exemple, les quartiers un peu plus chics, ici, par exemple, on connaît ça au dans le 16e parce qu'il y a plus de bons parfums, par exemple, des girls hein, chez les femmes. Hein. Tout ça, des parfums plus chers.
Il vous semble que les femmes utilisent des parfums différents?
Oui, mais il y a des parfums orientaux aussi. Au quartier latin un peu, oui. Là, oui. Ça aussi définit le quartier. Vous savez, il y a plusieurs réalités de Paris. Il y a la réalité sonore, visuelle, olfactive aussi, n'est-ce pas? On perçoit aussi comme ça Paris. Je suis né en Slovénie, dans une petite vallée, près de la frontière avec l'Italie. Et là, j'ai perdu la vie à l'âge de 11 ans, à la suite de deux accidents. C'est-à-dire, j'ai eu deux accidents, l'un après l'autre, j'ai perdu la vie progressivement. C'est une branche qui m'a blessé les gauches. Et puis, une année plus tard, j'ai trouvé un détonateur de mine, mais je ne savais pas que c'était un détonateur. J'ai tapé dessus, ça a explosé. C'était nos jouets. Le matériel de guerre. Donc je suis un valide de guerre. Hein.
Vous aviez quel âge à l'époque?
À l'époque, j'avais 12 ans, oui. 12 ans quand ça s'est éteint complètement. Après, je suis allé à l'Institut des jeunes aveugles.
Ça s'est passé progressivement, c'est-à-dire que votre vue a mis plusieurs mois à disparaître.
Oui, oui, mais peut-être c'est mieux les longues adieux. Hein. On garde plus de souvenirs. Les longues adieux, vous savez, si vous vous sépariez d'une personne que vous aimez, si ça dure un certain temps, la séparation, c'est peut-être mieux. Comme si c'est brusque, je sais pas. On a le temps.
C'est-à-dire que vous saviez que vous alliez perdre définitivement la vue dans...
J'avais des pressentiments, même si on m'a menti un peu, parfois. Hein.
Donc vous saviez que d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, vous alliez perdre complètement la vue. Donc vous avez essayé de retenir le plus d'images possible.
Oui, c'est comme si un jour vous êtes agréable, un très beau jour. Et vous voudrez le retenir et vous pourriez courir derrière le jour. Mmh. Il y a un ami allemand, Walter Havek, qui m'a raconté comment c'est beau si on voyage en avion vers les États-Unis, mais si on prend l'avion à Francfort à une certaine heure, on suit le soleil. Hein. Moi, j'ai suivi un peu le soleil, mais le soleil était beaucoup plus rapide que moi. je marchais trop lentement pour l'atteindre encore. Oui, j'ai reçu une fois une gifle, oui, c'est pas grave, hein, parce que... Il y avait une fille qui a posé pour moi, elle m'a dit, oui, mais tu ne me provoques pas avec ton regard, il me faut de la provocation, et puis je dis, mais tout de même, je suis, malgré cela, je suis voyeur absolu, et ça ne m'y a pas plu, je sais pas, enfin, c'était pas trop méchant, bon...
Elle a réagi au mot voyeur, en fait.
Oui. Je sais pas à quoi elle a réagi. Non, mais c'est pas grave, vous savez. C'est...
Mais quand vous faites des portraits de femmes, parce que tout le monde va se poser la question, donc je vous la pose, est-ce que vous touchez le corps de ces femmes pour connaître la position?
Vous voyez, c'est ça, c'est de la perversion, n'est-ce pas? Parce qu'on s'imagine, en ce qui concerne les aveugles, n'est-ce pas, qu'ils ne font que toucher. Et c'est très mauvais. Et je me rappelle, Il y avait enfin une fille, c'est un ami aveugle qui m'a raconté ça, n'est-ce pas? Il y avait une fille qui, justement, à cause de ça, voulait avoir une aventure avec lui, n'est-ce pas? Et après, elle lui a dit, tu sais, avant, je ne m'imaginais pas que tu allais me toucher si peu, n'est-ce pas? Alors, pour moi aussi, je sais, on me pose des questions, est-ce que tu touches tes modèles? Je touche si c'est vraiment nécessaire, justement le nécessaire. Et puis, ça dépend de la fille, n'est-ce pas? Vous savez, si je touche une chevelure, hein, c'est pouvoir commencer. Et pourquoi pas?
Comment vous choisissez même le modèle quand une personne se présente pour savoir si elle vous convient? Vous dites, il y a le feeling, il y a on sent ou on ne sent pas.
On sent ou on ne sent pas, ou sinon je demande, parfois je veux, je ne sais pas, une fille qui a des longs cheveux, ou qui est blonde, ou qui est brune, ou ça.
Et en général, elle correspond à quelque chose que vous recherchez avant de préparer la photo, ou c'est quand elle vient que la photo vous vient aussi?
Il faut que je l'entende, oui. Vous savez, il y a des filles qui se donnent à voir, hein, qui se donnent à voir tout le temps. Par exemple, je ne sais pas, ici à Paris, si vous observez dans les rues, c'est ce qu'on me raconte, on me décrit des situations. On voit très bien qu'il y a beaucoup de filles qui sortent pour se faire apercevoir, pour se faire voir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas de temps à autre, elles ne se feraient pas voir un aveugle, ou plutôt à son appareil, hein?
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. On a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Ah, attendez, là, il y a un rayon de soleil, c'est parfait, là, pour la photo.
Comment?
Il y a justement un rayon de soleil.
Oh, c'est pas nécessaire, le soleil, pour la photo, hein? Ça peut être son soleil aussi. Ça, parfois, la lumière peut être meilleure s'il n'y a pas le plein soleil. Vous savez, on m'a beaucoup parlé de la lumière de Paris. Comme ça, bon, je suis vu ça aussi en faisant mes études, en travaillant l'histoire de la peinture. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur la lumière de Paris. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça change avec la pollution. Mais ce n'est pas nécessaire toujours le soleil.
Et vous l'avez senti, cette lumière de Paris, ou non?
Oui, je la sens, oui. Je la sens par les bruits, parce que les oiseaux chantent différemment quand le jour se lève, les oiseaux commencent à chanter, et quand la nuit s'approche, ils chantent autrement.
On raconte que les derniers mots prononcés par Goethe furent plus de lumière. Et on n'a jamais très bien su s'il voulait dire par là plus de lumière, faites-moi plus de lumière, ou bien plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Est-ce que c'était un constat ou un souhait ? La lumière, c'est toute la réflexion, la démarche, la poésie, véritablement la poésie, de notre ami Eugen Bauchar, qui est aveugle et photographe. La lumière. Il se souvient des dernières images qu'il a vues dans son enfance lorsqu'il avait 12 ans.
Les dernières images, je me rappelle des gens, des visages, et puis une belle fille qui avait des très beaux cheveux, très très noirs, comme ça, foncé noir. Et puis je me rappelle les voitures aussi, les pigeons aussi. Les pigeons, ou par exemple, la neige sur les toits de Ljubljana, parce que une fois je suis allé avec une infirmière sous le toit. Mais j'ai eu ce regard magnifique par une espèce de lucarne sous le toit, sur Ljubljana, sous la neige. Donc ça, c'était très beau. Après, ça a disparu, ça aussi, la couleur blanche.
Les yeux du médecin aussi qui venait vous inspecter régulièrement.
Il y avait parce qu'on voit des yeux des médecins, des ophtalmologistes de très près. Et parfois c'est très beau, il y a des beaux yeux. Mais il faut dire aussi que même si ce sont des yeux des malades, il y a des beaux yeux. Les yeux des enfants qui sont malades, ça m'a resté. Je me rappelle une fille qui voyait presque pas, qui avait des yeux tellement bleus. C'est mon bleu que ça me rappelle aujourd'hui presque, vous savez, la peinture de Modigliani un peu, ces yeux-là, vous avez vu, hein, un peu ça, si je pense à ces yeux-là, ça me rappelle. Et il y avait d'autres yeux aussi, les yeux qui louchaient, mais c'était des yeux, c'était beau. Et puis des tout petits bébés aussi, j'ai vu, avec les yeux malades.
Et les couleurs, vous les avez perdues en fait progressivement aussi.
Après, oui, peut-être quelques années plus tard, 2 ans, comme ça, les couleurs, je veux dire rouge, ça j'ai pu encore regarder, je me rappelle que bleu aussi encore un peu, bleu, jaune, et puis ça a disparu. Ma première photographie, c'était à l'extérieur, c'était avec un appareil russe complètement manuel. Et j'ai pris en photo une fille.
N'importe quelle fille ?
Non. C'était une fille qui me semblait être plus belle que les autres, parce que j'étais un peu amoureux. Hein. Peut-être presque trop amoureux, hein. Un peu de façon moyenâgeuse, hein. Un peu troubadour, un peu. Et voilà, je l'ai prise en photo. Je faisais comme les autres. Ça n'a rien d'exotique.
Vous avez toujours cette photo ?
Oui, je l'ai. Mais je vais la montrer jamais. Hein. On ne montre pas des photos comme ça.
Elle l'a vue ?
Elle l'a vue, oui. Elle l'a vue. Mais probablement, elle a déjà oublié. Hein. Les femmes oublient très vite. Hein.
Et ensuite ?
Plus vite que les artistes. Quand elles sont conscientes qu'elles sont devenues dulcinées, alors les pauvres Don Quichotte doivent payer après.
Là, on est au Louvre, au musée du Louvre, avec notre ami Eugen Bauchar, le photographe qui est aveugle, et une situation très particulière puisque j'avais promis de lui décrire une toile de Rembrandt. Un mystère, un grand mystère, c'est les autoportraits de Rembrandt. 100 fois environ, il a gravé ou peint son propre portrait. Alors bien sûr, devant ces autoportraits de Rembrandt, on s'empresse d'essayer de déceler le récit de sa vie. Mais en fait, si on regarde bien, si on regarde mieux, et si on cesse de regarder, ce qui est encore peut-être mieux que regarder, c'est pas ça. Rembrandt nous raconte son ambition, sa destinée, c'est-à-dire de devenir la peinture même. Rembrandt devient la peinture au fil de ses autoportraits. Il devient la peinture, il devient de la peinture, de la lumière qui réfléchit. Et finalement, il disparaît dans la peinture, dans sa peinture. Il est libre, il se fout complètement sur la fin de sa vie, de la reconnaissance, de la bourgeoisie mondaine d'Amsterdam. Il est complètement ailleurs, il se détache du monde. On est devant cet autoportrait.
Alors là, c'est un autoportrait. Oui. Un autoportrait à la palette. Oui. Il est de 1660. Donc là, on est dans la maturité de Rembrandt. Il va mourir en 1669. Alors, il faut quand même savoir qu'il a peint des autoportraits à peu près toute sa vie. Je ne sais plus combien. Je pense au moins une quarantaine. Oui. C'est très étonnant de les voir les uns à côté des autres, parce que c'est vraiment à la fois l'accomplissement d'une vie, des ponctuations dans cette vie. On voit la vie au travail, on voit la mort au travail aussi. Dans ces autoportraits, on peut supposer que ces autoportraits, il les faisait un peu. Mmh. Il va avoir mille raisons de les faire. Mais l'une de ces raisons devait être que comme il était, la plupart des autres portraits qui lui étaient, qu'il faisait lui étaient commandités, avec toutes les astreintes qu'on peut imaginer de ressemblance et de choses comme ça, là au moins il était libre de peindre comme il l'entendait, puisqu'il se peignait lui-même.
Mm-hmm. Et là, qu'est-ce que vous voyez là?
Oui, alors on voit un homme.
Le cadre, c'est de quelle taille à peu près?
Voilà, oui. Alors là, c'est un format un peu plus petit que Betsabée, je dirais 1 mètre sur 90, 1 mètre de haut sur 90 environ. Oui. Le personnage est campé au milieu de la toile. C'est évidemment le visage que vous voyez d'abord, qui vous fixe, qui vous regarde. Il est coiffé d'un bonnet blanc, une sorte de coiffe blanche, comme ça, très blanche. C'est frappant. Une lumière azimutale, une lumière qui vient du haut, qui frappe.
De quel côté? Du haut à gauche, à droite?
Ah, on pourrait dire qu'elle vient du haut à gauche.
Du haut à gauche, oui.
Hein? Mm-hmm. Alors qu'il frappe d'abord ce, comme pour nous détourner, qu'il frappe d'abord ce, cette coiffe, ce bonnet blanc. Et puis ensuite, qui fait sortir ce visage, qui frappe, enfin qui commence à nimber, disons, le visage, en partant par le front, le nez. Et c'est une lumière assez économique, enfin assez pauvre.
Pourquoi?
Assez rare.
Pourquoi? Il y a des pénombres?
La plupart, presque toute la toile est plongée dans la pénombre.
Oui, mais par rapport à visage, par exemple, qu'est-ce qui est plus clair? Qu'est-ce qui est plus obscur?
Qu'est-ce qui est le plus clair? Oui. Qu'est-ce qui est le plus clair? C'est ce bonnet blanc qui nous frappe.
Oui, bien sûr, ça j'ai pensé.
Qu'est-ce qui est le plus obscur? Ce sera le manteau ou les hardes que porte le peintre.
Oui.
Là, c'est dans des tons très sombres, très sourds, des bruns très très sourds, qui sont à peu près identiques au fond de la toile. Sur la partie droite du tableau, il y a un trait vertical qui nous indique peut-être une porte, quelque chose qui est par là.
Oui.
Ailleurs, c'est par là, en tout cas. On se dit que pour sortir de ça, c'est par là.
Oui.
Ça donne une notion d'espace, un trait lumineux vertical, comme ça, qui nous indique ça.
Oui.
Alors, bon, mais faut pas, je ne sais pas si on a, vous avez envie de qu'on rentre dans les histoires de construction, de composition, d'architecture et tout ça.
C'est trop long. Ce qui m'intéresse, c'est l'impression. C'est l'impression. Oui. Pour ça, je vous demanderai là, l'expression du visage. Ce visage-là.
C'est très difficile.
Cette figure de visage, voilà.
C'est très, très difficile d'isoler ce portrait de l'ensemble des portraits de Rembrandt, qui commence à être très sûr de lui. Si on veut penser au biographe, alors on se dit que ça va être des moments où il connaît certaines difficultés pécuniaires, mais qui ne sont pas aussi importantes que les biographes nous veulent bien nous le dire. Ils adorent. Ils adorent nous raconter des histoires de peintres maudits et tourmentés.
Maudit, bien sûr, oui. Et sans argent.
En fait, il a l'air vraiment très très sûr de lui. Là, il est très ambitieux, ce petit bonhomme.
Vous voyez ça à quoi? L'expression des yeux? La bouche, la bouche.
Il a une bouche assez petite, assez...
Oui.
Rouge, c'est un homme... c'est un sensuel, on se dit ça, bon.
Un asset.
Il a des bonnes joues quand même. Hein.
Oui.
Le menton assez... Double menton.
Il n'y a aucune arrogance, hein.
Oui.
Mais il y a une pénétration.
Oui.
Il y a une pénétration dans son expression. Mais là aussi, on n'a pas l'impression qu'il peint son autoportrait. On a l'impression qu'il peint de la lumière.
Mmh.
Il sculpte de la lumière et il la dirige sur cette figure. Hein? Mmh. Je crois qu'il ne cherche pas l'expression. Il cherche la lumière dans laquelle il y a quelque chose.
Mais
là, pour lui.
Ce côté clair-obscur, disons-là,
oui.
Dans ce portrait-là, à quoi vous donnerait l'avantage? Est-ce que c'est plus sombre, c'est plus clair?
Ah oui.
Est-ce que son âme qui apparaît là,
tout à fait.
L'expression de ce visage, est-ce que c'est plus dans les ténèbres ou c'est plus dans la lumière? Selon votre impression, comme ça.
Oui. Il émerge.
Oui.
Il émerge d'un magma qui va du sombre, mettons, au doré, selon les parties. Et il y a cette chose qui est particulière, qu'il faut pas mal de temps pour noter, alors qu'on l'avait vu de premier coup. C'est qu'autour de la figure, il y a une sorte de léger poudroiement de la lumière. C'est pas un fond derrière lui, derrière le visage. C'est pas un fond plat. Il y a quelque chose d'irradié. Ça irradie d'une manière très, très, très bizarre. Donc, très, très mystérieux et très fin en même temps. Bon, mais on sent que c'est un homme qui est en pleine possession de lui-même, qu'il a quelque chose à dire. Il est anti-académique, à cette époque-là, il se fout du monde. Hein.
Oui.
Il n'a pas l'air inquiet du tout. Et si c'est une inquiétude, elle est feinte. Il sait quelque chose, il sait qu'il a découvert quelque chose.
Oui.
Qui dépasse l'art.
Oui, oui, oui. Mais par exemple, si vous voyez là le visage et tout ça, la figure, n'est-ce pas? Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est le grand silence, n'est-ce pas? Nous, on en parle parce qu'on est obligé, vous êtes obligé, mais par exemple, est-ce que vous pourriez mettre un mot sur ce visage? Qu'est-ce que ce visage dirait s'il parlait? Bien sûr, c'est une question, n'est-ce pas? Mais parce
rien.
Qu'il y a le silence.
Rien.
Rien. Rien.
C'est un silence.
C'est un silence.
Oui, c'est un silence. C'est le silence du peintre, d'ailleurs, il est au travail.
Oui. Donc, il est plongé dans la réflexion.
Oui.
Dans la pensée complètement.
Méditation, contemplation.
Un peu.
Il regarde au-delà de lui-même.
Absent du monde, un peu absent.
Oui, oui, oui. Dans le silence.
Dans le silence, oui.
On a l'impression qu'à l'avance, il ridiculise tous les commentaires qui seront faits.
Bien sûr, oui. Et là, les yeux. Tout à l'heure, on a déjà.
Moi, je sais que c'est les yeux, c'est le regard, tout pour être tout à fait prosaïque,
oui.
d'un peintre en train de se peindre, donc il se regarde dans un miroir.
Oui.
Mais ça donne un effet d'absence, je trouverais.
Mmh.
Un petit peu comme le regard de Benzabé, au fond.
Oui, oui. Vous retrouvez le même regard ici.
Oui, 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 qui nous dépasse. Il est fixé sur nous, on pourrait dire que là, il nous regarde, mais en fait, comme Benzabé regarde sa servante, c'est-à-dire qu'il regarde beaucoup plus loin.
Oui, oui, oui.
Ou beaucoup plus près, comme vous voulez.
Oui, 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 je comprends, oui. Un regard qu'on ne peut pas définir comme ça, qui passe...
Oui, c'est celui d'une méditation. Et c'est la sienne, à cette époque-là. Et pour une fois, on a l'impression que notre regard est aussi important que ce qu'il regarde.
Ah oui, donc c'est pas un regard narcissique.
Pas du tout, voilà.
Pas du tout.
Voilà. C'est une peinture qui est ouverte. C'est une peinture qui est ouverte, c'est-à-dire que... notre regard est important. C'est pas une toile qui est fermée, c'est pas un visage qui est fermé sur lui-même. Tout le reste est plongé dans l'ombre. Sa main qui tient la baguette du peintre, l'autre main qui tient la palette. Tout ça est un peu sans importance. Il y a une petite théâtralité quand avec ce bonnet blanc, ses oripeaux indiqués sur ses épaules.
Est-ce que vous pourriez vous imaginer, si vous regardez ce tableau avec une lampe de poche comme ça la nuit, qu'est-ce que vous verriez d'abord?
Ah oui, si je le découvrais avec une lampe de poche la nuit, c'est ça?
Oui, oui.
Ce serait ce visage émergent, un visage émergent.
Oui. Donc le visage, ça sort vraiment du tableau, ça sort.
C'est ça.
Ça sort du tableau. Vous croyez qu'on pourrait voir la même chose si on s'éloigne, je ne sais pas à quelle distance on peut s'éloigner, à quel moment vous commencerez à percevoir le visage?
Tout de suite.
Oui.
D'aussi loin que vous soyez,
oui.
Vous commencerez à voir ce visage apparaître. C'est la première chose que vous verrez.
Oui,
le
oui.
plus grand contraste est entre Ce visage et ce bonnet, vissé sur là-dessus, enfoncé dessus. C'est ça qui apparaîtra d'abord.
Et le front?
Bombé.
C'est un détail comme ça, mais ça m'intéresse.
Il n'a pas de complaisance sur son physique. Il ne s'est pas peint en gloire, là. Hein, pas du tout. Il est en habit d'atelier. Ce bonnet, c'est peut-être un bonnet de nuit, après tout. Hein. Cette chemise pendouille un petit peu. Et de la même façon, la façon dont il traite, bien évidemment, la chair. Alors là, c'est un artiste absolument incroyable. C'est la chair d'un homme qui a un certain âge, déjà. Les cernes sous les yeux, les rondeurs de... le menton et le dessous du visage qui s'en va un peu avec des marques de barbe ou de choses comme ça. C'est sans complaisance, c'est dans son intimité, quoi. C'est lui qui se peint, là.
Mais les cernes ne sont pas trop accentuées, les cernes, c'est...
Ah, il a un œil rond, un peu jovial, mais enfin, ça devait être un bon... Je suppose que c'est un bon vivant, ou... C'est pas le portrait d'un homme tourmenté, hein. Il semble pas... Il a des yeux ronds, un peu ahuris sur le monde, pointus. Il veut essayer de comprendre quelque chose, mais c'est un regard qui va derrière les apparences. Et il nous entraîne derrière les apparences et puis il nous laisse en plan, quoi. Maintenant, débrouillez-vous. C'est un peu comme ça.
Là, je suis assez pris par le tableau, vous savez, je suis pris par, comme ça.
Ces mots, ce fleuve de mots dans l'esprit, dans l'imaginaire de celui qui ne voit pas, d'Eugène Bauchard, après cette description de l'autoportrait de Rembrandt.
Oui, je voulais vous dire là donc la lumière, on se rend compte que la lumière n'a pas de Dieu, que c'est partout et c'est nulle part la lumière. Non?
Là en l'occurrence, oui.
Oui,
oui, oui. En l'occurrence, oui, comme dans à peu près toutes les toiles de Rembrandt, et notamment dans la ronde de nuit dont vous parliez,
oui.
Il fait ce qu'il veut avec la lumière. Mmh. Une subjectivité totale. Il utilise la lumière comme il le souhaite. Reste à savoir ce qu'il souhaite. Mmh. Mais pour lui, la lumière est un matériau.
Mmh. Il y a aussi une chose très importante. Souvent, les gens sont un peu aveuglés par les tableaux, n'est-ce pas? Alors, on ne voit plus rien, parfois. Est-ce que ce tableau peut aveugler aussi le regard?
Ce qui peut aveugler, c'est l'intimidation de tous les commentaires qui ont été faits sur Rembrandt depuis si longtemps.
Je pense, oui.
Et ici, on voit peut-être des pèlerins qui arrivent comme s'ils arrivaient à la Mecque en marchant sur les genoux.
Oui, c'est ça, oui.
Ça, c'est le processus d'intimidation de l'appareil critique, surtout celui du 19e siècle, par exemple, qui nous
trop,
a...
Trop de clichés, oui.
Trop d'intimidation. Il faudrait que nous soyons ici comme des petits nains rampants devant des œuvres. Il ne faut pas réduire l'œuvre. Mais faut pas s'abaisser. C'est en ça que vous avez raison.
Oui.
Ça peut nous éblouir tellement qu'on voit plus rien. Ça arrive très souvent.
Vous voyez là les visages sur le tableau, n'est-ce pas?
Oui.
Ce qu'on appelle la facture du visage. Et vous voyez les gens qui passent. Est-ce que ces visages-là, les figures de visage, sont de notre monde ou ça reste tout de même terrestre?
Tout à fait terrestre.
Oui.
C'est nous, hein? C'est nous, c'est lui.
Oui.
Il y a deux dames qui sont derrière nous, qui sont un peu cinquantaine, peut-être 55 ans, peut-être.
Oui.
Elles pourraient tout à fait être dans le tableau. C'est nous.
Tout à fait.
Tout à fait. Ah, oui. Il n'y a rien de mystique là-dedans.
Oui.
On est dans l'humain, on est dans la chair. Et si bien d'ailleurs qu'au bout de là-bas sur ce mur, on voit le bœuf écorché de Rembrandt.
Oui.
Un bœuf de boucherie accroché là, oui. Après être... Oui. On n'est pas dans le mysticisme là, on est dans la viande.
Mm-hmm.
On est dans la chair, on est dans le... Dans le vivant, dans le vécu, dans la barbaque. Mais par contre, introspection, réflexion, philosophie, méditation.
Vous pouvez faire une remarque sur le regard, parce que vous avez fait un rapprochement entre Betsabé et l'autoportrait. Les deux regards se ressemblent, parce qu'en fait, je trouve que le regard résume en fait toute leur vie. C'est le destin. Elle, c'est son destin jeune. Lui, c'est sa vie qui est passée homme âgé. C'est vraiment caractéristique. En plus, cet autoportrait, on dirait que Rembrandt se regarde dans un miroir, ce qui est tout à fait probable s'il a fait son autoportrait.
Bah oui.
Mais justement, quand les gens se regardent quelquefois dans le miroir, c'est aussi une sorte de... On s'arrête trois secondes, on se regarde et on fait le bilan d'une vie, même si on est jeune. Et je trouve que c'est tout à fait cette position-là, ce regard-là.
Oui.
Et Betsabé, elle a un regard qui n'est pas rêveur, mais qui fait au contraire le constat de ce qui va lui arriver ou ce qui lui est arrivé. C'est vraiment le destin tout résumé, toute une vie résumée dans un regard.
Ça c'est drôle, ça c'est Cécile qui accompagne notre ami Eugène Baochard. Vous avez vu tout de suite la subjectivité, ce que Pascal Bonafoux peut vous raconter sur Rembrandt, ce que moi je peux raconter sur Rembrandt, la façon dont notre ami Eugène Baochard voit Rembrandt et la façon dont cette jeune fille en parle. Ça prouve quoi? Ça prouve que aller voir ses peintures, celles-ci ou d'autres, et ne soyez plus intimidés. Allez en paix, les enfants. Du moment que chacun a un regard, ça veut dire que chacun a une subjectivité, c'est-à-dire que c'est le regard intérieur qui compte le plus. C'est ça,
bien
la
sûr,
femme,
mais,
tout simplement.
Bien sûr, mais je cherche aussi, malgré les différences de description possibles sur le Rembrandt, il y a toujours quelque chose qui ressemble. Même s'il ressemble par opposition, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y a une constante dans la description, n'est-ce pas? On peut s'éloigner, mais on ne peut pas s'éloigner trop. Donc il y a... Et j'essaie de voir un peu après qu'est-ce qu'il y a de commun derrière tout ça, n'est-ce pas? Il y a tout de même une impression comme ça, mais c'est très fragile. Et bien sûr, il faut aussi... je ne sais pas suivre une intuition comme ça intérieure et décider après, mais ça, je ne peux pas vous dire à qui je crois davantage.
Oui.
Ça. Parce qu'on peut croire plus, on peut croire moins. Ça.
Oui.
Et puis je pense qu'il y a aussi une perception un peu mystique, surtout quand il s'agit de Rembrandt, n'est-ce pas, où on a déjà, je ne sais pas, un critère pour la vérité. Un critère pour la vérité, au-delà des mots, comme... Comme par exemple dans cette peinture, parce qu'il y a des choses au-delà des évidences, il y a toujours des choses qui nous donnent cette liberté immense. Et peut-être je suis plus prêt à écouter une description de Rembrandt que quelqu'un d'autre, parce que ça laisse plus de liberté.
Voilà.
Il y a des peintures où on ne peut pas se permettre ça, mais chez lui, il y a cette ouverture de l'espace, cette ouverture ailleurs, dans le cadre. Alors, je peux faire cette aventure avec vous. Il y aura toujours quelque chose d'ouvert, d'infini, qui va rester. Et on pourrait revenir et on va trouver d'autres choses, sans doute.
Oui, et moi, je ne décrirai pas de la même façon.
Bien sûr.
Et vous aurez changé aussi.
Bien sûr.
C'était un reportage avec Anne Rioux, diffusé pour la première fois le 21 mars 1991. Et pour vous inscrire à l'enregistrement de l'émission avec Le Monde Diplomatique ce lundi 26 avril, une seule adresse, lediplo@java.gmail.com, et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Guillaume Lacroux et Loïc Frapsos. Réalisation Koye Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Agnès Le Bot, chef du répondeur Céline Rouzet, et le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour. Ce samedi, jackpot loto exceptionnel de 5 millions d'euros.
Montant total à partager entre les gagnants du premier rang.
Vous me reconnaissez ? Blanche, violette ou verte ? On me mange entière avec une sauce assaisonnée. Je suis l'asperge, toujours là au printemps pour vous régaler. Vitaminée et pleine de minéraux, il serait dommage de ne pas en profiter. Car oui, moi, l'asperge, je ne suis là que quelques mois dans vos magasins. Avec l'asperge, c'est le printemps dans nos assiettes.
Avec le soutien de France Agrimaire.
Rendez-vous avec le Carrefour de l'Odéon dans un instant. Merci d'écouter France Inter. Il est 16h. Les informations avec Pierre-François de Courcelles.
L'aide européenne et internationale à la Grèce pourrait être débloquée d'ici quelques jours, selon le ministre des Finances grec. Le pays a annoncé officiellement son intention de recourir au plan d'aide massif de la part de l'Union européenne et du Fonds monétaire international pour faire face à ses problèmes financiers. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, indique, elle, que la part française pourra être débloquée au début du mois de mai. Angela Merkel, la chancelière allemande, annonce de son côté que l'Allemagne, réticente à aider la Grèce, ne prendra part à ce plan que si la stabilité de l'euro est menacée. Le ministre des Finances grec doit rencontrer demain à Washington Dominique Strauss-Kahn, le président du FMI, ainsi que le commissaire européen aux affaires économiques. L'Iran fait un geste envers l'Occident. Téhéran a accepté aujourd'hui une surveillance et des inspections accrues de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur un site sensible où est enrichi de l'uranium à un haut niveau. Ce geste coïncide avec le lancement par Téhéran d'une offensive diplomatique pour empêcher l'adoption de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le programme nucléaire iranien. En Irak, le bilan s'alourdit d'heure en heure après les attentats qui ont frappé plusieurs quartiers chiites de Bagdad. Les 6 explosions auraient fait une soixantaine de morts et près de 120 blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Ces attaques interviennent 2 jours après l'annonce par les autorités irakiennes et américaines de la mort des 2 principaux chefs d'Al-Qaïda dans le pays. La France proteste et demande officiellement au Cameroun de faire toute la lumière sur la mort d'un journaliste en prison. Bibine Gota, directeur du journal Cameroun Express, est décédé jeudi en détention à Yaoundé, faute de suivi médical, selon sa famille. Il avait été condamné pour faux et usage de faux. Le Quai d'Orsay dit également suivre avec attention le sort de l'avocate camerounaise Lydiane Eyoum, mariée à un Français, elle aussi en détention provisoire depuis début janvier dans la même prison de Yaoundé. Karim Benzema n'a pas encore été convoqué par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire de Meurs qui éclabousse l'équipe de France de football. Des informations parues dans la presse ce matin annonçaient une audition comme témoin pour la première semaine de mai. L'avocat du joueur dément, mais il assure aussi que son client s'y rendra si on lui demande. Karim Benzema, comme Franck Ribéry, aurait croisé le chemin d'une prostituée en 2008. La jeune fille était mineure à cette époque. Son avocat estime que Karim Benzema n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Aux États-Unis, c'est un autre scandale qui éclabousse la SEC, le gendarme boursier américain, un scandale alimenté par les Républicains. Une enquête a révélé que plusieurs employés ont passé un certain temps, voire un temps certain, ces 2 dernières années à consulter des sites pornographiques au travail. L'un d'eux y passait 8 heures par jour, alors même que les effets de la crise financière se faisaient le plus durement ressentir. La nouvelle tombe à point nommé pour les Républicains qui reprochent aux gendarmes boursiers d'avoir engagé des poursuites contre la banque new-yorkaise Goldman Sachs.
Mercredi, à partir de 21h, Gotham Project en live sur France Inter. Une soirée présentée par Didier Varro.
Gotham Project, un nouvel album et un concert exceptionnel en direct du studio 104 de la Maison de Radio France. Quand le folklore argentin a rendez-vous avec la musique électronique.
Gotham Project en live. Un concert événement à suivre mercredi à partir de 21h sur France Inter. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter et le Théâtre National de Strasbourg présentent, du 27 avril au 30 mai, La Cerisette d'Anton Tchekhov. Mise en scène par Julie Brochen. Une création avec les comédiens de la troupe du TNS. Retrouvez La Cerisette dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 16h, passé de 4 minutes tout de suite. C'est Carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Pierre-François. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons feuilleter, si vous voulez bien, le nouveau Diapason, magazine de la musique classique et de la haute fidélité dont nous sommes partenaires. Et ben voilà, je répète toujours qu'il faut se grouper pour non seulement sauver, mais aussi présenter ce que l'on aime dans un monde qui est plutôt rude, on le sait. Donc la musique, c'est plutôt fragile, mais ça me paraît indispensable à l'évolution de l'âme humaine. Alors il y a un beau portrait de Jordi Savall, par exemple, sur la couverture, et puis on raconte ses épopées de Barcelone à Jérusalem. Tous ces disques incroyables, il est arrivé jusqu'au Qatar ces jours-ci d'ailleurs. Je ne parle pas du pays, je parle des hommes purs, ceux qui résistaient à toute tentation d'être dans le siècle et d'obéir à des ordres faux. Les Qatars qui ont été d'ailleurs pourchassés, Montségur, etc., etc. Donc on en parlera prochainement. Préférence de Jordi Savall, on lui demande quel est votre siècle préféré, il dit le siècle actuel. Votre heure préférée, minuit. Votre mot préféré, amitié. Votre animal, le Terre-Neuve, il parle du chien bien sûr, ça continue comme ça avec le bleu marine en tant que couleur. La symphonie héroïque de Beethoven, Orfeo de Monteverdi, véhicule préféré, le train, c'est pour les jeunes, tiens, votre roi préféré, le lion, le roi lion, une formidable comédie musicale, votre juron préféré, merde, votre mets favori, le riz noir, votre boisson, le thé vert, votre drogue préférée, attention, cachons-nous les oreilles, hein, le chocolat noir, ça va, tout va bien. Alors, comme chaque mois, nous avons décerné à France Inter des diapasons d'or renforcés par le cycle de France Inter. Voici tout de suite, par exemple, un disque tout à fait extraordinaire, remarquable, Sviatoslav Richter déchaîné dans une urgence, oserais-je le mot, volcanique, quatrième étude de Frédéric Chopin. Thank you. Même le public de Moscou en 76, très mélomane, applaudit juste avant la fin quand même, tellement c'est incroyable évidemment. Sassou-Savrichière, c'était pas forcément toujours la perfection, mais en tout cas une espèce de furie, de frénésie absolument invraisemblable et inimitable. Quatrième étude de Frédéric Chopin, Sassou-Savrichière, c'est un disque Melodia, donc justement récompensé d'un diapason d'or France Inter. Et restons en Russie, alors avec José Van Damme qui est un maître, un baryton basse belge, mais il chante, on va entendre un extrait magnifique de Boris Goudonov de Moussorgski, la mort de Boris, de manière absolument incroyable. On avait déjà entendu une merveille, c'était Chaliapine autrefois, le prodigieux chanteur russe qui avait une telle puissance dramatique, c'était phénoménal. Mais là, José Van Damme, dont on publie 30 ans à la Monnaie, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, eh bien, il tient vraiment son rang aussi et c'est absolument extraordinaire. Donc on sait que Boris est un tsar peu scrupuleux, qu'il a tué un enfant autrefois, qu'il veut être l'héritier du trône, et puis lui-même, il commence à être épuisé, et il va tomber et envoyer chercher son fils Féodor. Il demande pardon à Dieu et après avoir acclamé en son fils le nouveau tsar, il va mourir.